Notre invité aujourd'hui est Claude Labatte. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un spécialiste, j'ai failli dire le spécialiste, mais un des spécialistes en tout cas des rites que nous vivons en ce moment même en Pays Basque, à savoir le rite de l'Olentzero, les rites autour de Noël, autour du solstice d'hiver. Alors vous faites partie de l'association Laouboulou.
Oui, voilà.
Qui œuvre justement au service du patrimoine culturel basque et à sa vulgarisation.
Voilà, exactement.
Claude Labatte, en ce moment, tous les enfants ont plusieurs mots à la bouche, Olentzero, Père Noël, cadeau. Vous, comment vous vivez cette période du temps de l'avant Noël?
Oui, alors ça c'est quand même assez complexe, parce que il y a à la fois des choses très intéressantes, très positives, et puis également des limites à cette course au cadeau, par exemple, qui parasite plein de choses, quoi. Et la fête de Noël et la fête de l'Olentzero, quoi. Parce qu'on est dans une société de consommation, donc ça tout le monde le sait. Et moi, je pensais que ça allait s'atténuer, mais au contraire, on a atteint le paroxysme. Là, c'est-à-dire, plus il y a cette notion de crise qui nous accompagne, plus il y a en même temps ce refuge dans le consumérisme, quoi. Alors, moi, je pense que ce qui est intéressant, bon, le Père Noël, lui, il vit sa vie tranquille, c'est un incontournable. En Pays Basque, on a décidé de ne pas lutter contre Père Noël, parce que de toute façon, il est là, ça sera très difficile à enrayer. Et puis, est-ce qu'il faut l'enrayer? Moi, j'en sais trop rien. Moi, je ne m'y intéresse pas du tout, à vrai dire. Sauf pour justement essayer de faire la différence avec Olentzero. Quand Olentzero a commencé, on pourra en parler, tout de suite, les gens ont dit, ça y est, on a un Père Noël basque. Alors, on sait à quelques-uns, parce qu'il n'y a pas que moi qui m'intéresse à tout ça. Il y a quand même pas mal de gens, et notamment des éducateurs, des enseignants, qui ont décidé justement d'aller à contre-courant et de dire non, c'est pas un Père Noël, il y a autre chose derrière. Mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça qui a été difficile vraiment à établir, parce qu'il y a des choses, on le sentait très bien, comme dans toute culture, quoi. Alors, on a essayé de sarcler un petit peu pour savoir ce qu'on pouvait trouver comme racines.
Pour trouver les racines, justement, il faut remonter, il faut faire un peu d'histoire et savoir comment, finalement, les gens vivaient ces rites de passage que sont, par exemple, le solstice d'été, le solstice d'hiver. Parce qu'à l'époque, il y a très longtemps, pour les gens, il n'y avait pas quatre saisons, il n'y en avait que deux.
Oui, et dans la langue basque, il n'y a toujours que deux saisons. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, on est certainement, moi j'en suis arrivé à le penser très fortement, on est certainement le dernier bastion en Europe qui se base sur des choses qui viennent de l'Antiquité, de manière très très précise, à la fois pour cette notion des deux saisons, alors on peut expliquer pourquoi, hein, et puis à la fois également pour pourquoi le solstice d'été est vénéré et le solstice d'hiver également. Donc je crois que ce qu'il faut pour bien comprendre tout ça, c'est de se remettre dans les mentalités d'antan. Nous autres, aujourd'hui, on voit le temps qui file comme une flèche qui vient du passé, qui va vers le futur et qui se déroule très ponctuel, je veux dire très, de façon très banale, quoi. Printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, de manière linéaire comme ça. Et on sait que dans toutes les sociétés anciennes, en Europe occidentale en tout cas, les gens avaient une perception du temps qui n'était pas linéaire comme ça, mais qui était plutôt pendulaire. C'est-à-dire on allait entre deux bouts, entre deux extrémités, le solstice d'hiver et le solstice d'été. Et le soleil grandissait vers le solstice d'été et diminuait vers le solstice d'hiver. Et cette notion du temps pendulaire fait qu'on a privilégié donc ces deux périodes. Alors on dit toujours que les gens avaient peur que le soleil ne reprenne pas sa course et qu'il conjurait donc le soleil de reprendre sa course dans les deux sens, quoi. Il ne faut pas prendre nos ancêtres pour des imbéciles. Ils savaient très bien que le soleil allait revenir. Mais dans toute société traditionnelle, on a besoin de rites pour se mettre en accord, en cohérence avec les cycles de la nature. C'est quelque chose de très sain. Moi, je dis que c'est la véritable écologie, c'est-à-dire on fait corps avec la nature, donc on respecte le temps tel qu'il est. Et c'est pas une peur. Je pense que les gens savaient que le soleil allait repartir, mais on a besoin de dire que le soleil doit repartir. Pour dire au soleil, tu nous accompagnes, on a besoin de moisson l'année prochaine, il faut que tu repartes. C'est pas une incantation, c'est simplement une espèce de reconnaissance à ce qu'apporte le soleil et ce qu'apporte la nature.
Donc pas de printemps et d'automne.
Alors, dans la tradition basque, on a une trace donc de ce temps pendulaire qui détermine deux saisons, en fait. Puisque le printemps en basque se dit Udaberri, le nouvel été, et l'automne, c'est Udaskena, le dernier été. Donc il y a plutôt l'été et l'hiver, simplement. Alors, ce n'est pas fondamental comme point aujourd'hui, puisque même l'automne et l'hiver et le printemps aujourd'hui, on voit très bien avec le changement climatique que ça s'estompe, toutes ces frontières-là. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est de voir que on a un système binaire entre l'été et l'hiver, le soleil qui éclaire bien la Terre, qui dure longtemps pendant la journée, et en hiver, le soleil qui dure moins longtemps et qui semble tout petit à l'horizon là-bas. Donc les gens s'accrochent à ces symboles-là et ils vont organiser ce qu'on a organisé toujours dans les sociétés traditionnelles. Pour dire tout ça, ils vont organiser des fêtes. Et les fêtes, ce n'est pas simplement un moment de défoulement, c'est aussi une manière de dire les choses et de les dire bien, alors qu'on ne sait pas lire et écrire. Et moi, je crois que c'est ça la force des sociétés traditionnelles, c'est qu'elles ont fait des rites, elles ont imaginé des rites qui sont tellement parlants, qui nous parlent encore aujourd'hui. Peut-être moins aujourd'hui parce qu'on est trop sûr de nous, on s'accroche à des tas de choses et puis on oublie ce que nos anciens pensaient. Mais quand on voit comment étaient fêtés et sont encore parfois fêtés les solstices, c'est quand même très intéressant.
Alors, quels étaient les rites qui accompagnaient ces deux périodes de l'année?
Alors, les rites qui étaient pratiqués, c'est tout simplement, on fait référence à la lumière et à la chaleur du soleil. On va donc fabriquer des feux, au bout de l'année. Alors, il y a un premier feu qui se déroule en milieu domestique, c'est-à-dire à la maison. C'est la bûche de Noël. Il faut allumer une bûche le 21 décembre. Ou le 24, ça dépend des endroits. Et cette bûche-là, on s'arrange pour qu'elle fasse sa combustion très lentement. Il faut que sa combustion dure au moins jusqu'au 1er janvier. Et en Pays Basque Sud, ça pouvait être jusqu'au 6 janvier, pour les rois. Alors, c'est pas propre au Pays Basque, ça existe partout. La bûche de Noël, c'est ça. C'est le symbole du soleil qui repart et qui fait la jonction également avec la nouvelle année.
La bûche qu'on trouve dans nos pâtisseries pour Noël, elle a une longue histoire.
C'est l'avatar de cette bûche de bois qui était là. Et d'ailleurs, dans certains endroits du Pays Basque, en Navarre, si mes souvenirs sont bons, dans certains endroits, c'est la bûche de Noël qu'on appelait Olencero. C'était pas un personnage. Donc ça en dit long, ça veut dire bon lencello, ça veut dire bonne nouvelle saison, donc c'est important ça. Et au solstice d'été, les gens vont aussi faire un feu, mais ça sera un feu collectif. Sur la place du village, on va faire un grand feu, le feu de la Saint-Jean, donc le 24 juin, et il va y avoir des rites très intéressants qui seront pratiqués. Puisqu'on est dehors, on a tout l'espace pour soi, on va par exemple demander aux jeunes qui vont se marier dans l'année qui suit de sauter les premiers en se tenant la main par-dessus le feu. C'est une espèce de rite de fertilité, quoi, tout simplement, pour assurer la survie du village, quoi, tout simplement. Ça aussi, c'est une grande sagesse. On va donc mettre en valeur ces jeunes adultes-là qui vont se marier et qui vont assurer la descendance pour le village. Et derrière les fêtes, notamment les fêtes basques, il y a toujours cette notion de génération montante qui est sous-jacente. Et Olencero, c'est le cas. Ce ne sont pas les enfants qui fêtent Olencero, ce sont les jeunes adultes et les adolescents. C'est-à-dire la génération qui monte et qui dit aux autres, alors pas de manière violente, mais qui dit aux autres, attention, on arrive, laissez-nous la place. Et moi, je trouve ça très réconfortant qu'une société se donne aussi les moyens de canaliser l'énergie de cette nouvelle génération et de leur dire, bientôt vous aurez le pouvoir, mais vous avez un rite à passer avant de le prendre. C'est d'abord de connaître le village. Donc vous allez assurer la fête d'Olencero, et c'est là, on rentre donc dans le cérémonial d'Olencero, et vous allez parcourir le village de maison en maison, et vous allez dire que le soleil va repartir, et vous allez, en retour, recevoir une récompense, vous allez recevoir de quoi faire une nourriture.
Claude Labatte, on va parler plus largement d'Olencero dans quelques instants, mais arrêtons-nous un peu sur Noël. Finalement, la fête de Noël, elle apparaît au 4e siècle.
4e, 5e, je crois, par là.
Voilà. Les premiers chrétiens, pendant les 3 premiers siècles, ils ne célèbrent pas Noël, ils célèbrent simplement la fête de Pâques, oui, tous les dimanches. En fait.
Oui, la fête de Pâques, de toute façon, est quand même le sommet de l'année des chrétiens, et je crois que Ça l'est toujours d'ailleurs. Et par la suite, donc, il y a d'autres fêtes qui sont arrivées et qui ont, je dirais, presque pollué un petit peu cette vision très simple que c'est la fête de Pâques qui compte, quoi. Alors, bien entendu, c'est une pédagogie, les fêtes, là aussi. L'Église fait comme pour Olencero, c'est-à-dire on va, derrière les fêtes, on va avoir un discours, on va avoir des rites, c'est-à-dire un comportement qui va affirmer certaines choses. Alors, ce n'est pas négatif, tout ça, bien entendu. Et puis, surtout, ce qu'on oublie, c'est que pour se préparer aux grandes fêtes, pour Pâques, il y a le carême, pour Noël, il y a l'Avent. Et Olencero, ce n'est pas anodin que ça se passe le 24 décembre, le jour où, à l'époque, l'Église imposait le jeûne et l'abstinence. Donc les jeunes vont ramasser de la nourriture lors de leur passe-rue, mais ils n'ont pas le droit de la manger le 24. C'est un repas qu'ils vont faire entre eux le 25. Donc je veux dire par là, voilà, il y a des on manifeste comme ça par un repas, mais un repas que l'on fait à temps voulu pour faire la fête. Pour en revenir à Noël, les chrétiennes donc vont décider de manifester la naissance du Christ le 25 décembre. Alors c'est pas anodin le 25 décembre, ça correspond à une fête de l'Antiquité romaine très très importante, c'est le culte à Mitra qui terminait les Saturnales. Alors il faut expliquer tout ça.
Alors les Saturnales c'est...
C'est très simple et en même temps il faut donner tous les détails. Les Saturnales c'est un grand moment de fête, mais de fête complètement débridée. Moi je dis toujours c'est l'équivalent des fêtes de Bayonne mais sur 8 jours. Où les Romains à partir du 17 décembre jusqu'au 24 vont faire une grande bamboche. Il y aura des banquets partout, des gros banquets, des choses énormes vraiment. De la musique, du théâtre de rue, des masques, on va porter les masques parce que carnaval... sous l'Antiquité, et un peu après, carnaval se passait au moment du changement d'année. C'était la première fête de l'année. Donc, y avait des masques, il y avait des guirlandes, pas n'importe quelle guirlande, et ça, on en a des traces, c'est le gui, le hou, les végétaux verts, le laurier par exemple, c'est-à-dire tous les végétaux qui manifestent la persistance de la vie dans la nature. Voilà un joli symbole aussi. Et donc ce sont toujours des plantes que l'on retrouve aujourd'hui dans les décorations de Noël. Malheureusement aujourd'hui c'est en plastique, mais enfin bon, c'est autre chose. Et cette fête de Noël, plaquée sur la fête de Janus, elle se déroule là parce que les Saturnales se déroule donc pendant en gros une semaine. C'était vraiment une fête, très exubérante, hein, avec des choses qui sont terribles. On pouvait mettre le monde à l'envers. Ça, c'est typique de carnaval, ça. Hein. On met le monde à l'envers pour espérer qu'il va peut-être mieux tourner, quoi, hein, déjà à l'époque. Et quand on met le monde à l'envers, l'empereur également à Rome met le monde à l'envers, il descend de son trône et il met un esclave à la place.
Alors, il paraît que... C'est l'inversion des codes.
Voilà, l'inversion des codes, tout à fait. Alors, il paraît que même à une certaine époque, là, on tuait l'esclave à la fin de la journée, pour éviter qu'il prenne trop l'habitude de rester sur le trône, certainement. En tout cas, voilà, c'est les Saturnales. Et donc, le 24, on fête Janus. Mitra. On fête aussi Janus, mais on en parlera après. Et Mitra, dieu des moissons, dieu solaire également du Moyen-Orient, qui a été récupéré comme beaucoup de divinités du bassin méditerranéen. Les Romains, ils faisaient du syncrétisme, ils récupéraient toutes les divinités. Ils ont fait la même chose ici dans les Pyrénées, et ils donnaient ces divinités qu'ils avaient rencontrées à tous les gens qu'ils rencontraient par la suite. Et donc Mitra se célébrait, le 24 décembre, lors d'une fête qu'on appelait Sol Invictus, le soleil invaincu. Donc ça fait référence à cette idée qu'après le 21 décembre, le jour du solstice, on s'aperçoit que le soleil recommence à grandir dans le ciel et recommence à repartir. Donc voilà les racines profondes de l'Encéro. Alors ce n'est pas qu'une hypothèse, et ça repose sur plusieurs faits qui convergent. On a donc peut-être avec l'Encéro une espèce d'avatar, un des derniers avatars des Saturnales. Mais moi, je suis persuadé que c'était quelque chose qui était connu dans l'Europe entière, enfin dans l'Occident en entier. Et comme beaucoup de choses, ça s'est perdu partout, ça a été édulcoré petit à petit, sauf ici en Pays Basque. On a beaucoup de survivances de traditions anciennes ici, qui ne sont pas forcément d'origine basque, mais qui ont été vraiment assimilées.
Or, Claude Labatte, si je vous suis bien, les chrétiens, ils reprennent cette fête du Sol Invictus. Alors, du 25 décembre, voilà. Des Romains, et ils en font la naissance du Christ.
Voilà. Alors là, je voudrais aussi tordre le cou à une idée. Quand on dit toujours que l'Église a lutté contre les vieilles croyances, on ne peut pas lutter contre les croyances comme ça. C'est tellement ancré dans l'humanité que ça fait corps avec l'humanité. Moi, je pense que l'Église a exprimé une certaine sagesse. Elle a dit, ben voilà, nous aussi, on a un soleil. Puisque dans la liturgie, on appelle le Christ le soleil de l'humanité. On a un soleil, on va le fêter le même jour. Alors, bien entendu, avec peut-être l'ambition que le soleil chrétien dépasse largement le soleil païen, si je puis dire, c'est ce qui est arrivé, mais c'est peut-être pas le but premier. Le but premier, c'est d'être dans la même cohérence que les païens, c'est-à-dire, on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur, mais la chaleur et la lumière des chrétiens, c'est encore autre chose. Donc je crois qu'il faut voir les choses sereinement, c'est pas une histoire de combat, de lutte contre une religion ancienne. Pour moi, c'est tout simplement exprimer des forces de vie, mais on peut mettre vie avec un V majuscule aussi. Quoi. Je veux dire par là que les chrétiens avaient peut-être quelque chose à apporter aussi au monde occidental à cette époque-là, et continuent de le faire d'ailleurs.
Donc, vous nous annoncez un scoop, c'est que le Christ n'est pas né le 25 décembre à minuit.
On ne sait absolument pas quand il est né, le Christ.
Le 24 décembre à minuit,
voilà.
Plutôt.
Et est-ce qu'il est né en mois de décembre? On n'en sait rien. Alors, il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus. Moi, je ne m'intéresse pas personnellement à cette polémique-là. On sait que le Christ est un personnage historique qui a existé, il y a plusieurs témoignages qui le disent, mais de là à s'intéresser à sa date de naissance, c'est pas l'essentiel.
Claude Labatte, ensuite, bon, les chrétiens vont organiser finalement le cycle liturgique qui est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, avec donc les grands temps que sont le carême, l'avent,
oui,
comme vous l'avez dit, pour préparer Noël et Pâques. Comment se sont perpétuées, malgré le christianisme, finalement, toutes ces anciennes croyances ? Autour des solstices, autour...
Oui, alors, les anciennes croyances se sont perpétuées surtout par tradition orale et puis en maintenant des rites, et Olencelo en est certainement l'un. La grande question qui se pose pour Olencelo, c'est de savoir s'il a perduré depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours de manière continue. Ça, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire. Il y a une vieille fête, il y a une fête dans les archives du Staritz, qui raconte qu'au XVIe siècle, il y a une fête qui ressemble un petit peu à Olencelo. Est-ce que c'est Olencelo ? On n'en sait rien. On ne sait pas. Ça, d'après ce qui est décrit, on pense que ça ressemble un petit peu. Est-ce que ça veut dire que les gens fêtaient Olencelo ? Il faut être très prudent. En tout cas, quand on compare les Saturnales, les rites qu'il y a au moment des Saturnales et les rites d'Olencelo, on s'aperçoit que c'est cohérent. Il y a quelque chose de commun. En particulier, il y a un autre indice, une autre divinité qui était fêtée au Saturnal, c'était Janus, le dieu à deux visages, qui a un visage devant, un visage derrière la tête. Dans certaines traditions basques, en Labourd notamment, on a un personnage, le Koutinungori, qui porte ce masque-là, un masque blanc sur le visage et un masque noir derrière la tête.
Il s'appelle, ce personnage ?
Je pense que c'est le Koutinungori, il me semble, qui porte ce masque-là. Bon, je ne mettrai pas ma main à couper, mais enfin, c'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un personnage qui existe. Les deux visages. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux visages ? Mais comme pour Janus, c'est quelque chose qui regarde l'avenir et quelque chose qui regarde le passé. On dit que Olencelo a 366 yeux. Il en a 365 qui regardent l'année écoulée et un qui regarde le premier jour de l'année qui arrive. Donc, ça veut dire qu'on a tout ça dans notre culture qui est là. Et les gens, aujourd'hui, le redécouvrent. Et le fait de manière, ordinaire. Et par contre, ils sentent bien qu'il y a toute une... Et c'est calqué du monde chrétien, ça. Il y a aussi une manière peut-être de fêter Olencelo qui serait de préparer Olencelo comme les chrétiens préparent Noël par l'Avent. Donc moi, j'ai vu dernièrement, dans des établissements scolaires qui ne sont pas du tout catholiques, des gens qui font des calendriers de Noël. Alors, je ne sais pas trop avec quoi ils en font, ils ne m'ont pas montré, mais ils m'ont raconté simplement qu'ils en faisaient. Donc, ça veut dire qu'on sent la nécessité également de se préparer à la fête. Et ça, c'est, pour moi, c'est positif. Hein. Quelle que soit la fête, si on la prépare, ça veut dire qu'on ne va pas la faire n'importe comment. Et c'est à la fois sain, mais est-ce qu'on a besoin, pour Olencelo, de faire un calendrier de l'Avent ? Je ne pense pas. Il y a peut-être autre chose à faire. Mais ça, ça ne se commande pas. Ce n'est pas à moi de dire aux gens ce qu'il faut faire. Il faut que les gens sentent les choses en profondeur. Ça viendra, je pense. Et qu'on arrive à se donner aussi des manières de vivre la fête, de la préparer, qui nous soient propres et qui fassent peut-être le lien avec différentes traditions, s'il le faut. Mais on n'est pas obligé de parler de l'Avent pour Olencelo, je ne pense pas.
On marque une pause, Claude Labatte, en musique. Et puis on se retrouve juste après pour parler de ce personnage de l'Olencelo.
Ματική ώρα να τώρα σου έγκανα μεριωματική Ωραία, Aditu zuen iam, Jesus jaio zala, jaio zala, lasterka etorri da, parte ematera. Ora, 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 gure horren zero horra, Eta dago ora, arautzazuak eta kapoi pariakin, bihar merendatzeko botilar duakin. Botilar duakin! Aratzain borosoribi, antion eta pero, belengo portalera, Etorri zaizkigu, sartu dira barrenian Manuel txogana. Presente gindiote, harko mentxo bana. Ora, 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 gure horren zero ora. Ipautzeta duela iserita dago ora, arautzasuak eta kapoi pariakin, bihar berendatzeko botila duakin. Botila duakin!
Claude Labatte, vous nous parliez donc des différents rites qui accompagnent les solstices d'été et d'hiver. Alors arrêtons-nous maintenant sur ce personnage de Lorenzo. Certains disent que ce personnage, en fait, il est réapparu dans les années 70 à la faveur finalement du mouvement des Ikastolas. Vous, qu'est-ce que vous dites ?
Alors, ce qu'on sait de manière certaine, jusqu'à la dernière guerre et un peu après, on va dire jusque dans les années 50, cette fête est connue dans le bassin de la Bidassoa. Béla de Bidassoa, Fontarabi, Irun, Andaï. Je n'ai pas connaissance de d'Olentzero, très certainement que ça existait, mais je ne le sais pas, en Pays Basque Sud. À vrai dire, je ne m'y suis pas trop intéressé pour l'instant parce que j'ai été accaparé par Olentzero en Pays Basque Nord. Et par contre, en Pays Basque Nord, il était complètement inconnu, sauf Andaï. Biriatou, je ne sais pas même, peut-être. Ce qui est vrai, c'est que Olentzero est réapparu, donc, grâce à une André Réunion, une institutrice d'Ikastola, la première Ikastola qui a été ouverte en Pays Basque, à Arkang. C'est Libegoni, une femme qui existe toujours, qui a d'ailleurs elle a été ici en André Réunion, même à l'Ikastola du Polo, par exemple, qui a décidé, lorsqu'elle était à Arkang, de fêter Olentzero avec les enfants de l'Ikastola. Tous les autres enseignants l'ont accompagné et ils ont fait une fête d'Olentzero, un cortège, dans les rues d'Arkang. Ça parut complètement incongru aux habitants d'Arkang, surtout Arkang, qui est quand même un village assez particulier en Pays Basque, qui a été très surpris, et ils ont posé des questions, et les enseignants ont dit, mais voilà, c'est la fête d'Olentzero. Elles n'ont certainement pas pu expliquer davantage, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas trop, y compris elles, je pense. Ce qu'on savait, c'est que c'était du côté de la Bidassoa, c'était un charbonnier qui annonçait la naissance de Jésus. Alors, bien entendu, à l'Ikastola, on n'a pas trop insisté sur ce dernier point, puisque les Castolas se disent laïcs, donc ils ont accès sur le charbonnier et ils ont commencé à travailler un petit peu pour connaître davantage ce personnage-là. Et lorsque mon fils était à les Castolas au Polo, donc Libegoni était son André Réunion, elle m'a demandé un jour si je ne pouvais pas chercher des renseignements sur ce personnage-là. Donc à l'association La Boulou, j'ai mis tout le monde en route, là, on a essayé de trouver, et puis on s'est aperçu qu'effectivement, on pouvait avoir quelques précisions. Et notamment, on a découvert donc, cette fête qui était faite par les jeunes adultes et les adolescents. C'était pas une fête pour les enfants. Et là, à Arkang, c'était pour les enfants. Donc immédiatement, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu à la fois un intérêt, tout d'un coup, pour cette fête-là. Mais il y a eu aussi une dérive immédiate. C'est-à-dire que d'autres Ikastolas se sont empressés de faire Olentzero dès l'année suivante, et certains villages s'y sont mis aussi. Et tout de suite, on a dit, voilà, on a un Père Noël basque, on va fêter notre Père Noël à nous, et il y aura un Lencelo qui descendra de la montagne avec sa hotte, il va porter des cadeaux aux enfants. Et c'est ce qui s'est passé pendant quelques années. Et très vite, moi, donc c'est là que je suis intervenu, j'ai dit attention, c'est peut-être pas une bonne route. Et on s'est dit, il faut arrêter avec le Olencelo qui apporte des cadeaux, c'est pas son rôle, ça c'est Père Noël. Olencelo, il apporte un message. Alors son message, il faut d'abord le comprendre. Le message d'Olencelo, c'est comme un millefeuille. Hein. La dernière couche en haut, c'est qu'on a fait d'Olencelo l'annonciateur de la naissance du Christ. Surtout en Pays Basque Sud, ça, puisqu'en Pays Basque Nord, il était ignoré. Et en dessous, on trouve donc l'histoire de l'annonciateur de la nouvelle année, avec ses 366 yeux, par exemple, cette légende-là. Et puis, on se rend compte qu'en dessous, il y a aussi la référence au soleil, qui doit poursuivre sa course, donc les Saturnales. Et puis, on a également, là-dedans, une référence, donc très forte, au travail d'Olencelo, c'est-à-dire le charbon de bois, la fabrication du charbon de bois. Et là, on est typiquement dans une activité qui était très répandue en Pays Basque, puisqu'il y avait beaucoup de forges en Pays Basque, jusqu'au XVIIIe siècle, qui utilisaient le charbon de bois pour faire fondre le minerai. Et c'est comme ça qu'on a perdu tous les arbres de ce pays, pratiquement. Et donc, le charbonnier, c'est quelque chose d'important. Alors, moi, j'ai essayé de voir, parce que j'aime beaucoup le faire quand je travaille sur la culture basque, j'aime bien montrer que la culture basque, elle n'est pas unique. Elle fait partie d'un ensemble qu'on appelle l'humanité. Et on retrouve le symbole du charbon dans plusieurs civilisations. Le charbon est un symbole d'un monde latent, c'est-à-dire quelque chose qui ne demande qu'un souffle pour pouvoir vivre. Et effectivement, le charbon, quand on veut qu'il chauffe, il faut l'allumer et puis souffler dessus, quoi. Donc Olencelo dit, le soleil va revenir, mais vous avez peut-être du travail à faire.
Alors, ça c'est le message d'Olencelo.
Tout ça, c'est le message d'Olencelo. Donc, on n'est pas dans Noël à proprement parler, mais en même temps, on a un personnage richissime là, qui nous apprend des choses, qui nous invite à faire des choses, qui correspondent quand même à Noël. Noël aussi, l'incarnation, c'est quand même un monde latent, hein, et la venue du Christ, mais le feu, si je puis dire, à l'humanité, le monde va changer. Donc, on est là dans quelque chose d'universel, de chrétien, de basque. Toute cette teinte-là font Olencelo.
Olencelo, est-ce que c'est un personnage, comme vous avez l'air de le dire ? Est-ce que c'est une période de l'année ? Ou est-ce que c'est tout simplement un morceau de bois, comme vous l'avez dit, avec la bûche ?
Voilà, très bonne question. Eh bien, on s'est rendu compte, en fouillant après un petit peu dans les traditions, à gauche et à droite, dans les sept provinces, que dans certains endroits, il n'y avait ni bûche, ni personnage, il y avait la faucille, tout simplement. Olencelo porte une faucille, comme Saturne, dans les Saturnales. C'est le symbole du dieu des moissons. Et Olencelo porte une faucille pour dire aux gens, n'ayez pas peur, le soleil va reprendre sa course, il y aura à nouveau des moissons l'année prochaine. Et donc la faucille était accrochée dans certaines maisons à la crémaillère de la cheminée, et on l'appelait Olencelo. Et quand les enfants tardaient à monter dans leur chambre à l'époque de Noël, on leur disait, si tu ne vas pas dans ta chambre tout de suite, Olencelo va te couper les oreilles. Alors la faucille, c'est aussi l'instrument, ne serait-ce que par sa forme, qui traduit cette idée de balancier du soleil, quoi, et qui montre bien que l'année peut être coupée en deux, été, hiver. Voilà, donc tout se rejoint comme ça. Alors c'est peut-être des vues d'intellectuels, des vues un peu, comment dire, un peu tirées par les cheveux par moment, mais les symboles, si on veut qu'ils vivent, il faut continuer de chercher, d'émettre des hypothèses, et puis, surtout dans une société, tous ensemble, essayer de leur donner du sens et de peut-être de faire évoluer ce sens.
Olencelo, quelle est l'étymologie de ce mot, finalement ?
Alors, Olencelo, il y a eu beaucoup de tentatives d'explication. Il y en a une qui a fait, à un moment donné, qui a eu un certain succès, mais qui s'avère complètement farfelue. On disait que Olen, c'était l'anagramme de Noël. Les Basques se seraient amusés avec le mot Noël et l'auraient transformé en Olen, Olencelo, le temps de Noël. On sait très bien que même Noël, c'est pas un mot français, donc il y a peu de chances que ce soit cette explication-là. Par contre, Orpustan, et je crois que Gros-Claude également en Béarn, ont travaillé sur l'origine d'Olencelo, ce serait le temps des bons. Le temps des bons, c'est-à-dire les temps des gens qui sont bons, qui correspondraient peut-être à une vieille légende également, le temps des gentils, et le temps des païens, autrefois, c'est-à-dire ceux qui précèdent les gens d'aujourd'hui. Dans la mythologie basque, les païens, c'est pas forcément le négatif, les païens, ce sont les gens d'avant le Christ. Et l'histoire c'est à partir du Christ. Le temps est coupé en deux là aussi. Et il y a deux époques dans l'histoire des gens. Il y a avant les gentils et après les chrétiens. Alors, Olencero, peut-être c'est une explication. Et il y a une troisième explication qui, à mon avis, est peut-être très intéressante également, comme pour expliquer le mot d'Olencero. Il y avait une tradition dans l'Église pendant une partie de l'Avent, entre le 17 décembre et le 24 décembre, c'était d'aller à l'église tous les matins. Il y avait une petite cérémonie, c'était pas une messe, une petite cérémonie dans laquelle il y avait des prières, et il y avait notamment un chant qui était découpé en couplets, et chaque jour on chantait un couplet différent. Et c'était en latin et en grégorien, et chaque jour on chantait un de ces couplets. Ça s'appelle les oléries. Ça s'appelle les oléries parce que la première lettre de chaque couplet, c'est la lettre O. C'est une interjection, on s'adresse à Dieu en disant O. O, par exemple, le premier jour, c'est O, sagesse des gentils. O, plus tard, O, Adonai, un nom qu'on donnait à Dieu dans la Bible autrefois. Ainsi de suite. Et le 21 décembre, jour du solstice, on l'appelait O, Orient. C'est-à-dire, on se servait donc du solstice d'été pour dire le soleil va repartir.
Solstice d'hiver.
Solstice d'hiver, oui, tout à fait. Donc, on a ce chant-là qui aurait peut-être donné le nom d'Olencero. Olencero, ce serait l'époque des hauts.
Or, ce chant, il existe toujours dans la liturgie de l'Avent, puisque c'est la neuvaine, finalement, oui, avant nos avants. Et en fait, ce sont les antennes que l'on chante pour le Magnificat au Vêpres le soir.
C'est ça.
Qui commence par ô soleil levant,
ô
sagesse éternelle, etc. Ouais, etc.
Tout à fait.
Donc, voilà. Ça viendrait de là.
Alors,
c'est une des explications.
Alors, moi, je crois que La réponse, elle est entre les deux dernières hypothèses que je vous ai données. Le temps, ça, de toute façon, ça marque un temps. Alors, le temps des hauts, peut-être, le temps des bons, c'est-à-dire le temps des gentils, qui ont fait référence à tout ça. Parce que ce dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'il y a aussi, derrière Olencero, il y a quand même deux légendes très fortes dans la tradition basque, et pyrénéenne d'ailleurs, qui mettent sur la piste d'Olencero. La première légende, c'est la légende des gentils. C'est une légende qui est connue de l'Ariège jusqu'en Pays Basque, et peut-être même au-delà sur la chaîne Cantabrique. Ça rappelle les gens qui vivaient dans les Pyrénées, à l'époque où il faisait toujours beau. Il n'y avait qu'une saison, c'était l'été. Donc voilà, et il y a eu un signe dans le ciel qui a paru, qui a effrayé les gentils, et le sage de la tribu leur a interprété le signe en disant « c'est un signe du ciel ». Il faut qu'on disparaisse. Notre époque est terminée, une nouvelle époque commence, ce n'est plus la nôtre, nous devons disparaître. Et les gentils se sont enfermés dans un dolmen, ils n'ont plus jamais reparu. On a donc comme ça une légende très simple. Et la deuxième légende, c'est pas à proprement parler une légende ni écrite, ni racontée, c'est ce qui est dit dans la fête de l'Encelo, qu'un charbonnier va descendre de la montagne pour annoncer des jours meilleurs. Alors ça peut être la naissance du Christ, ça peut être le retour du soleil, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire autour d'Olencero. C'est une fête donc qui accompagne, moi je dis, la fête de Noël, mais surtout qui accompagne le changement d'année également. C'est-à-dire on va vers une autre année et le changement de saison.
Ce changement d'année, c'est quelque chose qui est très prégnant dans les civilisations pré-chrétiennes, j'allais dire.
De tout temps, je pense que les hommes, ils ont su déterminer les calendriers très tôt, même avant l'écriture. Donc, ils avaient besoin de marquer ce changement d'année. Et donc, ils faisaient des fêtes. Il y avait certainement des récits qui accompagnaient tout ça. Peut-être même des objets, on n'en sait rien. C'est-à-dire, c'est comme nos fêtes d'aujourd'hui, il y avait des supports pour comprendre tout ça, quoi.
Et il y a des expressions aussi. J'ai un document là, par exemple, brûler le cul de l'envieux.
Oui, ça c'était une tradition. Alors je pense qu'elle était pratiquée dans notre région d'Europe, mais en Navarre on l'a trouvée. On attachait la dernière page du calendrier, vous savez, les petits calendriers où il y a une page par jour, qu'on enlève chaque jour, comme ça. On accrochait le 31 décembre à la ceinture et on se poursuivait avec des allumettes pour allumer cette page. Et ça s'appelait mettre le feu au cul de l'envieux. C'est-à-dire, on chasse le vieux monde. Et on va vers le monde nouveau.
Et Claude Labatte, le début de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier.
Non, il a évolué dans le temps. C'était un mois de mars, à certains moments, février. Alors, il y a plusieurs débuts d'année, puis il y a plusieurs années, quoi. Aujourd'hui, on a l'année scolaire, par exemple, mais à l'époque, il y avait l'année qui correspondait au cycle de la nature, quoi. Carnaval a été mis tardivement, donc juste au début du carême, pour montrer que c'était une fête qui clôturait le cycle des fêtes d'hiver. Et puisqu'autrefois, il y avait des fêtes qu'en hiver, en fait. Hein, on gardait l'été pour travailler. Donc, le 1er janvier était très certainement une décision qui a été prise tardivement. Et il a fallu donc codifier tout ça, parce que, avec les communications qui se généralisaient, on était bien obligé d'harmoniser un petit peu les calendriers un peu partout, quoi.
Olencello, y a-t-il un Olencello type au niveau du costume? Est-ce qu'il faut, est-ce que il a certains attributs qui font qu'il est Olencello ou pas?
Alors là, je vais mettre une opinion personnelle. Là. Je sais qu'aujourd'hui, on tend à établir une espèce de cahier des charges pour montrer comment doit être Olencello. Ça correspond à un besoin d'organiser la fête, d'abord de la proposer au maximum de villages et de villes, ce qui est une bonne chose. Et on essaye de standardiser Olencello, parce que Père Noël est standardisé. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des Olencello un peu différents, c'est-à-dire adaptés à chaque milieu, qu'il y ait un Olencello des villes, un Olencello des champs, par exemple. Je veux dire par là qu'on ne réfléchit pas assez que la société a changé très vite ces dernières années, très très vite. Le Pays Basque est un pays urbain autant que rural, aujourd'hui. Et peut-être même que le milieu rural est souvent très urbanisé. Ce n'est pas un regret quand je dis ça, hein. Ce n'est pas une critique. Je remarque tout simplement que les enfants, on continue de les mettre dans un milieu très rural, très forestier avec Olencello, qui est complètement révolu. Quand on a fait venir des charbonniers pour construire des charbonnières à l'époque d'Olencello, les enfants étaient très intéressés parce qu'ils découvraient un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et on croit qu'en montrant une charbonnière, ils comprennent les charbonniers, c'est aussi hermétique que des tas de choses qu'il côtoie dans notre société d'aujourd'hui. Il faut faire tout un travail de pédagogie pour leur expliquer qui est Olencello.
Ça rappelle un peu les enfants qui vivent en ville et qui découvrent que le poisson pané n'est pas carré.
On est dans le même monde, voilà.
Ben voilà, c'est un peu ça.
Exactement. C'est-à-dire qu'on part trop vite du principe que les enfants connaissent les choses. Mais ce n'est pas vrai. Et moi, je suis persuadé qu'il faut peut-être créer des Olencello qui correspondent vraiment au temps où on est. Mais pas uniquement pour les enfants. Parce qu'il faut revenir également à la fête des jeunes adultes et des adultes. Il faut que les enfants soient avec les adultes, d'accord, puisque maintenant dans la société c'est comme ça. Mais il ne faut pas en faire une fête infantile. Il faut que ce soit vraiment une fête qui concerne tout le monde. Dimanche dernier, au concert donc d'Olencello, à la salle Loga, à Bayonne, on a vu des enfants chanter, on a vu aussi des adultes chanter. Et ça, c'est très bien. Ça, moi, je crois que c'est très important de ne pas casser les générations entre elles, quoi. Alors, par contre, il faut peut-être trouver un Olencello qui corresponde au monde adulte et qui corresponde à des réflexions et à des besoins de cette classe sociale, les adultes. Moi, je serais d'avis qu'on mette Olencello au service également d'une partie de la société qui manque de lumière et de chaleur. Et on a beau le savoir, il y a des tas de gens, y compris ici en Pays Basque, intérieur et sur la côte, qui sont loin d'avoir la lumière et la chaleur qu'ils devraient avoir. Donc c'est très personnel comme réflexion, je n'entends pas l'imposer, mais j'aimerais bien qu'il y ait une réflexion collective là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas se donner une fête qui permette, à un moment donné, de faire un acte fort en direction de ces personnes-là? Je ne dis pas forcément de faire la quête, mais pourquoi pas affirmer des valeurs qui rendraient les gens un petit peu plus responsables par rapport à ces gens-là qui sont dans le besoin.
Donc vous préconisez quelque part un lien social qui se crée grâce à l'ONCELO, oui,
voilà, tout à fait.
Auprès des personnes les plus en difficulté ou isolées.
On peut le dire comme ça. Oui, celles qui sont isolées également. Il y a des tentatives qui existent. Moi, j'ai souvenir, lors d'un stage de l'éducation nationale sur l'ONCELO, il y a un conseiller pédagogique qui avait décidé d'informer les enseignants sur ce qu'était l'ONCELO. Il y a un instituteur d'école publique, je tiens à le dire, parce que c'est quand même très intéressant, qui a proposé de former des groupes dans les écoles, en français et en basque, pour créer des chants nouveaux sur l'ONCELO, parce qu'il faut bien dire que les chants actuels, c'est un peu limite, hein, au point de vue contenu, et également de créer des berchou, de créer des poèmes, pour que les enfants ensuite fassent un grand passe-rue, c'était à Cambo ça, un grand passe-rue dans les rues de Cambo, mais dans un but bien précis, d'aller porter le message de l'ONCELO à une catégorie de personnes qui est un peu isolée. Ils sont allés dans les maisons de retraite. Moi je trouve ça extraordinaire comme principe. Ça veut dire donc qu'on a respecté la fête, mais on a respecté aussi la société.
Voilà, créer du lien,
entre
les différentes générations ceux qui peuvent faire la fête et ceux qui n'ont plus envie de la faire.
Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que ce serait intéressant d'en parler avec ceux qui en ont envie, pour que cette fête-là, et peut-être d'autres également, commence également à irriguer toute la société.
Alors, vous évoquiez les chants qui accompagnent l'ONCELO. Il y a quand même toute une palette de chants qui accompagnent à la fois l'ONCELO, mais aussi tous les rites du solstice d'hiver.
Oui, c'est-à-dire que tout est cohérent, bien entendu. Mais dans les chants d'ONCELO, il y a beaucoup de chants qui s'attachent à la dernière version, si je puis dire, d'ONCELO. C'est-à-dire qu'on en a fait le charbonnier crasseux qui descend de sa montagne, qui est ivrogne, qui est battu par sa femme dans certains endroits. Donc c'est un drôle de portrait.
Claude Labatte, est-ce que l'ONCELO fait peur ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je n'ai jamais vu d'enfant dans les cortèges être effrayé par le visage noir d'ONCELO. Je crois que non. Et puis y a quand même une ambiance festive autour qui fait qu'on ne peut pas avoir peur, quoi, je pense. Hein. Alors après, ça m'amène vers autre chose également. Par contre, on a cru bon rajouter un autre personnage. Ça, personnellement, je ne suis pas trop d'accord, mais c'est à discuter. On le fait accompagner aujourd'hui par une femme qu'on appelle Marie Domingui. J'ai beau chercher, j'ai beau demander à des gens un peu partout, Pays Basque Nord, Pays Basque Sud, personne n'est capable de me dire d'où elle vient. Je pense qu'elle a été inventée très récemment. Ce ne sont pas les féministes, à mon avis, qui ont demandé qu'il y ait une femme avec l'ONCELO. Pour moi, c'est un personnage qui parasite la fête de l'ONCELO, qui noie un petit peu le message de l'ONCELO. Surtout qu'elle est très colorée dans son vêtement, alors que la couleur de l'ONCELO, c'est le noir.
Claude Labatte, on arrive presque au terme de cet entretien. Vous avez des souvenirs de Noël dans votre enfance. Est-ce que c'est une fête qui a beaucoup évolué ? Oui, vous allez me dire en raison de la société de consommation, mais est-ce qu'il y a quand même des permanences finalement dans la manière de célébrer Noël et les fêtes qui sont les fêtes d'hiver, j'allais dire, avec un H, hein,
oui,
les
oui,
fêtes
oui,
d'hiver.
Oui.
Est-ce qu'il y a une permanence ?
La permanence que je vois, la première, la plus importante, ça reste une fête familiale. La famille se retrouve, en général, bien qu'on commence à sentir que, pour certains, la fête de Noël n'existe pas, parce qu'ils ne le veulent pas. Les gens sont libres, là. Hein. Mais je veux dire par là, c'est quand même, pour beaucoup, encore ici, une fête familiale. C'est quand même une valeur, ça. Après, la deuxième chose, c'est que, mine de rien, qu'on soit croyant ou non, c'est une fête sacrée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Même si on n'adhère pas à la religion, on respecte également ce caractère sacré, ne serait-ce qu'en mettant des lumières dans la ville et tout ça. On dit, attention, c'est pas n'importe quoi. Alors, bien entendu, ça a été détourné pour la société consumériste. Ça fait partie du décor pour inviter les gens à parcourir les rues et rentrer dans les magasins, c'est certain. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a aussi le fait qu'on a besoin de célébrer la lumière. Et plus que jamais aujourd'hui, on a besoin justement d'être une humanité éclairée. Donc je crois que voilà des petits indices qui montrent que c'est une fête qui peut parler à tout le monde aussi, quoi. Alors après, l'autre chose qui est importante, en Pays Basque c'est quand même fréquent dans beaucoup de fêtes, on se retrouve en famille, on se retrouve pour un repas aussi. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une espèce de liturgie également familiale, mais il y a quelque chose de ça quand même. C'est-à-dire, le repas, se retrouver ensemble pour passer un bon moment, c'est ça aussi la fête. Et se retrouver ensemble en famille au moment du solstice d'hiver, c'est pas rien. Ça veut dire que la cellule familiale est encore un petit cocon pour pas mal de gens, quoi.
On n'a pas parlé des cochonailles, mais ça a une place importante quand même aussi.
Bien entendu.
Aujourd'hui, on ne peut plus tuer le cochon devant sa maison, parce qu'à cause des risques sanitaires, c'est ce qu'on nous dit.
Les risques sanitaires.
Mais moi-même, j'ai connu
je crois que le risque,
la tuerie du cochon au pied de chez moi.
J'espère bien que ça continue, parce qu'à force de s'inquiéter des risques, le risque, il n'est pas sanitaire, il est vraiment intellectuel et affectif et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est en train d'aseptiser un petit peu. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, mais quand même, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont morts pour avoir tué le cochon à la maison, quoi.
Mais ça aussi, c'était une tradition pendant l'hiver.
C'est très beau parce qu'on le fait avec les voisins en plus. C'est un travail collectif. C'est, voilà. On a donc beaucoup de valeurs dans notre pays. On les célèbre, on les met en avant. Et je crois qu'il faut que ça perdure, quoi.
Un mot quand même, puisqu'on est sur Radio Chrétienne. L'Église aujourd'hui, comment elle vit finalement les transformations de ces rites qu'elle a accompagnés, vous l'avez dit, ou qu'elle a repris à son compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même du monde dans les églises à Noël, mais peut-être pas autant qu'avant. Je crois que les chrétiens célèbrent plus la fête de Noël que la fête de Pâques.
Oui. Déjà, moi, quand j'étais gamin, on nous disait que c'était la fête de Pâques qui était la plus importante, et pas Noël. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps, ça, cette évolution-là. Alors c'est vrai. Alors par contre, ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est que les choses sont pacifiées. Il y a 100 ans, je crois, ou 120 ans, le curé de Strasbourg a brûlé Père Noël sur la place de la cathédrale. Aujourd'hui, on n'en est plus là, quoi. Je veux dire par là, c'est pas de la tolérance, ça, aujourd'hui. C'est presque de l'indifférence. Et heureusement, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus verser d'un côté à l'autre, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce calme, cette paix qu'il y a entre les... Oui, cette tolérance qu'il y a entre les gens, il faut la mettre au service de quelque chose, quoi. Et montrer que si c'est comme ça pour Père Noël et l'Église, il faudrait que ce soit aussi pour autre chose, quoi. Pour des choses plus importantes encore, quoi.
Merci beaucoup, Claude Labatte. Pour terminer, peut-être quelques conseils de lecture des gens qui seraient intéressés par tout ce que vous venez d'évoquer pour nous sur les rites et les traditions autour des solstices d'hiver et d'été, sur l'Olentzero. Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des fiches?
Il y a des petits livres qui existent pour les enfants, pour les adultes. Moi, j'en avais fait un à l'époque, mais il est épuisé aujourd'hui, en basque et en français. Et... chez Elkar, aux éditions Elkar. Il y en a d'autres également. Il y a un très beau livre pour les enfants, uniquement avec des dessins pratiquement, de Aïssé Otondo, qui est très beau, très très beau également. Il y en a plein. Hein. Et puis surtout, il faut pas hésiter, je dirais, dans les écoles et dans les familles, à se fabriquer son Olentzero, c'est-à-dire à le voir comme on a envie de le voir, quoi. Il faut que ça continue d'être aussi un sujet qui titille un peu l'imagination et l'envie de...
Olentzero n'est pas figé.
Pour moi, non. Il ne faut pas le figer, en tout cas. Il ne faut pas le figer.
Merci beaucoup, Claude Labatte, d'être venu nous parler d'Olentzero et de tous les rites qui entourent cette période de l'année, cette période de l'hiver. Merci à vous.